Mes chers amis, mes chers compatriotes, quel bonheur que de recevoir ces deux tontons flingueurs-là, deux princes de l'humour, quand l'humour était encore intelligent, de vrais costauds du rire, d'un tonneau de maboule, de modèles d'une telle classe, d'un si gigantesque acabit que j'en tremble. Le premier, un écologiste humaniste, non génétiquement modifié et toujours en cours d'exercice, Marc Jolivet. Et le second, un compagnon de route, un génie de l'absurde, du pain sans rire et du non-sens caractériel, François Rollin. Ouais.
Alors, nos tontons flingueurs, Karl, vont devoir, comme chaque jour, répondre à la, avec la culture, l'intelligence et le doigté qui les caractérise, à un nombre sidérant de questions politico-sociétales.
Bien sûr, et ils connaissent l'enjeu. Et la portée symbolique de notre quiz citoyen qui a pour but d'en finir avec cette fracture sociale découverte en son temps par Jacques Chirac et toujours béante à ce jour.
Alors pour savoir qui d'entre vous va représenter la France d'en haut et qui va se battre pour la France d'en bas, je demande à mon voisin Marc Jolivet de tirer un bulletin dans cette urne transparente.
C'est un moment grave et démocratique.
Eh bien, François Rollin sera la France d'en haut.
Non, ça c'est vous,
ah, c'est
ça.
Pas ça.
Tu viens de tricher, Marc.
Mais quoi, je lis et je présente à mon voisin.
Eh bien, ça n'est pas la règle, c'est antidémocratique. Maître Jaunâtre, notre huissier en régime, signale
là, il est hystérique,
que tu perds déjà un point avant même d'avoir commencé.
Ouais.
Alors, puisque tu joues pour la France d'en haut, tu remporteras, mon cher Marc, une chatte.
Le salaire de Messi.
Non. Choupette, mais c'est plus, tu vas voir. Choupette de race sacrée de Birmanie aux yeux bleus. Une chatte adorée du couturier défunt, Karl Lagerfeld, qui avait décidé de lui léguer la totalité de sa fortune que tu vas donc récupérer au passage. En échange, tu auras juste à la lustrer quotidiennement, mais ça tu sais faire, et à animer le compte Instagram de Choupette tous les jours pendant 30 ans, afin qu'elle continue d'honorer son maître, Lagerfeld. Quant au professeur Rollin, il joue pour la, fatalement, pour le prix France d'en bas. Alors si tu gagnes, tu auras toi aussi une chatte, mais vieille et beaucoup moins classe.
Oh non.
Et si, il s'agit de Tambouille, âgée de 38 ans et demi, une chatte rachitique, totalement pelée, visiblement victime de très mauvais traitements. Tambouille a été abandonnée mardi dernier vers 14h par Brigitte Bardot sur la plage de la Madrague, dans le Var. Et Tambouille sera heureuse d'avoir en toi un nouveau maître qui saura lui rendre un peu de l'affection qu'elle mérite.
Bon, bon. Je prends tout ça. Moi.
Alors, François Rollin, avant de peut-être gagner ce magnifique cadeau, je vous rappelle, Karl, que François Rollin présente la cérémonie de clôture du Festival des Arts Burlesques entouré de jeunes humoristes. Ça sera le samedi prochain, samedi 2 mars à 21h au Centre des Congrès de Saint-Étienne. Puis il a mis en scène la comédie tendre et musicale La Promesse du Papillon au Théâtre des Variétés. Ça, c'est à Paris. Et Marc Jolivet, il est avec nous aujourd'hui alors qu'il prépare son tout nouveau spectacle ADN. Ça sera à partir du 28 février jusqu'au 21 avril. 30 représentations exceptionnelles, allez-y, au Théâtre de la Tour Eiffel avec la participation de Camille Jolivet qui n'est autre que... sa fille.
Elle est là ?
Et elle est dans le public aujourd'hui.
Elle est là, Camille.
Mais elle me paraît très jeune pour être sur scène au théâtre de la Tour Eiffel.
Elle a 25 ans, Camille.
Mais on dirait qu'elle a 8 ans, Camille. Eh bien, ceci posé, nous pouvons passer à vos bio fake news. Et on va commencer par Marc. Et c'est donc Ganesh. Notre jeune stagiaire de BFM TV qui n'a toujours pas été engagé, donc il reste là,
malheureusement pas
tel
encore.
Un résidu à Europe 1. Et en attendant de pouvoir partir pour BFM TV, Ganesh est à toi.
Jolivet Marc, comme son frère Jolivet Pierre, porte curieusement le même patronyme. Après une rapide enquête du service police-justice de BFM TV, il apparaît qu'il ne s'agirait pas, comme on l'a longtemps pensé, d'une usurpation d'identité, mais qu'ils sont nés de l'union matrimoniale de monsieur Jolivet Jacques, comédien, et de madame Thomas Arlette, comédienne. Cette dernière s'illustra de longues années coiffée d'une coquille d'œuf brisée dans une performance vocale télévisuelle qui conduit bien des enfants à la dépression.
La preuve sonore.
Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.
Calimero. C'était un moment qui faisait
absolument
la voix de Calimero. Et tu sais qu'à cause de ça, j'ai fait 4 dépressions quand même. Ça me faisait tellement de mal,
et
cette espèce de poussin.
Et je lui disais, maman, arrête, Karl va très mal.
Ouais, mais on a besoin de te nourrir, mon gamin.
Ganesh.
Jolivet Marc bâcle ses études et se retrouve géo au Club Med dès 12 ans. C'est là que le patron de l'ORTF de l'époque, René Bousquet, venu en vacances avec Pierre Laval et Céline, le repère. Il l'engage avec son frère Jolivet Pierre et leur confie une émission enfantine insensée que la morale interdirait d'en faire aujourd'hui. Les clowns Raicho et Frigo.
On écoute.
Salut, c'est moi Raicho.
Salut, c'est moi Frigo.
Et tous les après-midi, on retrouve nos amis. Salut, c'est moi Raicho.
Salut, c'est moi Frigo. Quand il fait pas chaud, quand il fait pas chaud, et qu'on a bobo, y'a Raicho et Frigo.
Yeah. Il n'a rien oublié, c'est incroyable. On peut l'applaudir.
Mais je le fais encore.
Dans la même foulée, toujours sous l'influence sans doute de René Bousquet, les deux frères s'attrapent, enregistrent leur premier et dernier 45 tours, le fils d'Hitler, qui sera interdit d'antenne suite à la plainte du véritable fils d'Hitler, Jean-Paul. On écoute.
Il a des petits frères à Moscou, au Chili et un peu partout. On l'a trouvé dans un nid d'aigle, mais il évolue dans la pègre. Le fils d'Hitler, Chibili Papa, n'a pas connu sa mère. Chibili Papa, mais ressemble à son père. Chibili Papa, il a son mauvais caractère.
T'as vu, hein, je n'ai rien perdu.
Je suis sur le cul, oh, on applaudit la nuit.
Yeah,
il est totalement fou. Mais tu sais qu'il a vraiment existé, ce fils d'Hitler, Jean-Paul.
T'es sérieux, là ?
Mais je suis tout à fait sérieux.
Alors, j'attends, hein, je vais l'attaquer.
Mais non, il est mort.
Ah, merde. Je pensais prendre du blé, non, mais non, je ne peux
pas. Pendant la guerre de 14, figure-toi qu'Hitler était sur le front, en France.
Oui.
Et il a eu une aventure avec une dame qui a fait un fils. Et le fils d'Hitler s'est outé à peu près dans les années 70. Mais à l'époque, il avait déjà 80 ans, tu vois,
ah,
le
mais,
mec.
Mais je vais vérifier ça,
mais
c'est
je
incroyable,
te jure que c'est
l'histoire.
Vrai. Et Hitler a de la famille, encore maintenant, à New York, etc.
Il n'y a rien Europe 1, il n'a pas de la famille à Europe 1,
t'es sûr?
Non, mais tant mieux.
On a des doutes sur Ganesh,
mais non.
Eh bien, nous passons maintenant à notre ami François Rollin, dit le professeur. Il est temps d'éplucher comme il se doit sa bio. Et malheureusement, pas de chance, François, c'est
encore moi.
Ce malheureux Ganesh.
Eh oui, stagiaire de troisième.
Je sens venir le tissu d'ânerie.
Ah oui,
le tissu d'ânerie s'approche, on y va.
Comme Jolivet Marc, Rollin François a commencé par la musique. Attiré qu'il était par les étoiles, les voiles ainsi que les choses pas commerciales.
Oh non.
Au sein de l'éphémère groupe vocalo-punk Tchouk Tchouk Nougat, c'est au début des années 80 qu'il massacre à la tronçonneuse buccale tous les grands noms de la chanson dans le tube intitulé « On attend le procès », ce qui lui en vaut effectivement une bonne trentaine de procès.
On écoute.
Jacques Coutin, c'est malsain, et Francal, c'est banal, et Jonas, c'est fadade, et Barton, c'est gnangnan. Côté mer, y'a pas de mer, et Delpech, y'a pas de pêche, Nougaro, y'a l'héros, et là-bas, y'a des mailles.
François, c'est toi qui chantais ?
Oui. Enfin, on chantait tous, mais on a pas réussi à avoir le moindre procès. Pourtant, il y avait 50 ou 60 chanteurs et chanteuses mis en cause, mais...
Mais ils n'ont pas entendu, peut-être.
Non, ils nous ont...
Est-ce que les radios passaient ce tube ?
Si, ils l'ont entendu probablement, et puis d'ailleurs on leur a envoyé, mais...
Pas de combat comme
Karis et Bouba.
Ils ont étouffé de leur bienveillance.
Ah. Ouais, ils sont
étouffés dans l'œuf Ganesh.
Puis, Rollin François, engagé dans la troupe du célèbre Palace de Rib Jean-Michel, crée le personnage qui fera sa gloire, le professeur Rollin, qui a toujours quelque chose à dire.
La preuve.
Vous l'avez entendu comme moi, le maître d'hôtel a employé, il y a quelques instants, l'expression « lever une gonzesse ». Attention, dans certaines régions, cette expression ne signifie pas séduire une femme, mais soulever une nana à l'aide d'un treuil ou tout autre appareillage coûteux.
Non.
De même, à titre de comparaison, pigeon ne désigne pas toujours l'oiseau, mais parfois une personne qui s'est laissée abuser par une autre.
Merci, professeur Rollin.
Énorme, énorme. Ganesh, vas-y.
Mais bientôt, suite au lancement de Canal+, la chaîne crypto-socialiste de sinistre mémoire, il crée avec d'autres compères les arènes de l'info. La première version des guignols de l'info. Et là...
Mais non, justement non. Justement non. Non, non, nous avons pris la place des arènes de l'info, qui était une émission pitoyable.
Ah oui, c'est vrai.
Et voilà, et avec Courriot et Delépine, on a fait un putsch. Et nous avons donc lancé les guignols de l'info.
Ah oui,
donc moi,
vrai.
Je suis les guignols. Les arènes, c'est l'année honteuse d'avant.
Et là, c'est l'éclair de génie.
On lui doit la meilleure blague des guignols qui durera 30 ans et fera, grâce à la SACEM, la fortune des auteurs suivants.
Ah, contiens-toi bien, Pépélé. Tu vas rigoler aussi.
Bon, ça ne fait pas de fumée au moins.
Ah, que non. Que ça, c'est une boîte à coucou.
Mais montrez-nous comment ça marche, qu'on en profite un peu.
Ah, que c'est facile. Tu te penches vers la boîte. Et quand tu lui fais coucou, coucou. Ah que vas-y toi, Pépédé, fais coucou.
Coucou.
Ah. Ah que ça marche.
La boîte à coucou. Et c'est vrai que ce sont les auteurs suivants qui ont continué à faire la boîte à coucou. C'est pas cool. Et à piquer le pognon Ganesh, une dernière.
Enfin, comment oublier qu'en 1992, sur les conseils d'André Rousselet de la G7, le président Mitterrand lui-même, grand fan des guignols, l'appelle et lui offre d'écrire les textes de la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville.
On écoute.
Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, célébrant les 16e Jeux Olympiques d'hiver.
Ouais, en même temps, tu t'étais pas trop fait chier. Hein.
Non, c'est pas moi qui fais ça. Moi, j'ai écrit les textes de la grande fête cérémonie orchestrée par Philippe Découfflé. Et ça reste mon record d'audience, puisque nous avions 2 milliards de téléspectateurs. J'en ai jamais eu autant. Je crois qu'on repart un peu moins d'auditeurs.
Voilà, m'en parle pas. Ça remonte très fort, me dit-on dans l'oreillette. Anissa.
Alors, nous allons écouter les sons qui vont représenter chacun de nos candidats, parce que là, pour l'instant, il y a une égalité. On leur accorde un point chacun. Ils ont été tous les deux étaient très, très honnêtes. Wow. Alors, voici le son qui va vous représenter, Marc Jolivet, quand vous serez en tête des scores.
C'est quoi cette musique de
alors,
Baba Cool?
Alors, c'est de la musique indienne. Parce que si vous allez voir Marc Jolivet dans son dernier spectacle ADN, vous verrez qu'il fait référence à Gandhi.
Ah,
donc on lui a mis un peu de musique indienne.
Et donc j'imagine que le petit coucou qu'on entend, c'est à cause de la boîte du même nom.
C'est surtout...
Voilà, ça c'est pour François Rollin quand il sera en tête dans les scores.
Et quoi Gandhi? Tu
Mais non,
derrière
j'ai fait une recherche ADN qui prouve que j'ai des gènes de Gandhi.
Tu te fous de la gueule du monde,
Mais pas
Jolivet.
Du tout, tu l'as fait.
Non.
Et il faut faire sa recherche ADN.
Ah, sur
j'ai...
internet le
oui.
truc là.
Mais oui, je l'ai fait, non. J'ai des gènes de Gandhi, Mandela et de l'Andrew.
C'est autre chose.
Eh bien, on va en reparler. Je comprends mieux pourquoi j'aime la viande bien grillée.
On en reparle tout de suite après la pub.
Europe 1. Carl Zéro et ses tontons flingueurs font le tour de l'actu jusqu'à 18h sur Europe 1.
Des titans, des géants. Parmi eux, Marc Jolivet. Alors, mon cher Marc. Dans une de ces fulgurances sublimes dont tu as le secret, tu as déclaré ce qu'il y a de formidable dans ce spectacle, parlant d'un autre spectacle, c'est que la musique allège les propos. Vous dites Nicolas Sarkozy, vous mettez la musique de Terminator, tout est dit. Je vous propose donc maintenant de mettre en pratique cette application, ce magnifique théorème jolivesque politico-musical, avec ceci. Je vous donne un nom d'homme politique et 3 habillages musicaux possibles. Vous mettez d'accord pour en choisir un qui, selon vous, collerait parfaitement au personnage et on écoute le résultat. Jingle.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet.
Et on va commencer par Marine Le Pen. Alors, il y a 3 possibilités. Soit les dents de la mer, soit psychose... soit les envahisseurs.
Psychose, parce que son slogan, c'est « on arrive ». Vous avez vu pour les européennes.
On arrive.
Et je trouve ça mal élevé. On arrive, elle ne donne pas l'heure, elle ne donne pas rien. On arrive.
Elle ne ramène même pas du pain, rien.
Moi, je ne serais pas là, personnellement. Mais bon, on arrive.
Pourquoi
psychose.
Oh, mais moi, je veux bien le rejoindre sur psychose, bien que les envahisseurs collaient pas mal aussi.
Pas mal.
Et les dents de la mer aussi, hein, finalement.
Bon, alors, mélangez les trois.
Les dents de la mer, en l'occurrence, c'est plutôt les dents du père.
Mais... on essaye psychose.
Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre...
Ok, stop. On essaye quand même les envahisseurs. Oui.
Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France.
Ah
pas
ouais.
pour la transformer ça à l'image bien. De leur pays d'origine.
Les envahisseurs. Alors un point pour François,
Allez.
Il avait dit les envahisseurs. On va procéder comme ça, c'est plus simple. Là, maintenant, on part à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Vous préférez Rocky, Scarface ou James Bond ? Suspense.
Ah, Rocky.
Rocky.
Moi.
Rocky.
Oui.
Oui. Rocky Mélenchon, c'est parti.
La vague dégagiste qui est passée sur le pays va reprendre et s'amplifier. C'est le moment d'exprimer, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, d'exprimer dans la démocratie de la rue la leçon des élections que vous portez avec
ça
vos
bulletins
de vote et avec vos abstentions aussi.
Ouais. Il est vraiment notre Rocky et vous avez un point chacun, bravo. Maintenant Giscard, alors vous avez le choix entre La Guerre du Feu, Walking Dead ou E.T.
Les choix sont bizarres.
Ah, c'est horrible.
E.T.
E.T. à mon E.T., avis.
Ouais.
E.T.
Ouais.
On essaye E.T., allez on y va.
Je ferai en sorte de me tenir à la disposition de mon pays pour défendre les principes et les idées qui ont guidé ma vie et inspiré.
Ça donne envie de pleurer un peu.
Ouais, un peu.
Hollande, maintenant. Vous avez le choix entre...
La Panthère Rose.
Easy Rider avec son scooter.
Ou Histoire d'eau.
Mmh. Oh là là.
Alors, la Panthère Rose. Pour voir.
Panthère Rose, allez, on y va, c'est parti.
Il n'y a pas de force si elle n'est pas inscrite dans l'histoire, dans un mouvement qui, au fil des générations, donne à chacune et à chacun d'entre nous
c'est
un idéal
génial
qui lui permet de se dépasser.
Essayez de voir Easy Rider quand même.
Il n'y a pas de force si elle n'est pas inscrite dans l'histoire, dans un mouvement.
On est à une série
au fil des générations donne à chacune et à chacun d'entre
moi j'aimerais bien entendre avec Histoire d'eau quand même.
Alors Histoire d'eau pour Anissa, qui est d'ailleurs spécialiste du journal du Hard, tu nous l'as révélé il y a quelques émissions.
Non, je m'intéresse à tout.
À tout, tu t'intéresses à tout, oui. Ok, alors on écoute Histoire d'eau.
Il n'y a pas de force si elle n'est pas inscrite dans l'histoire, dans un mouvement qui, au fil des générations,
ça
donne
fonctionne
à chacune et à chacun d'entre nous un idéal qui lui permet de se dépasser.
Au cinéma de la rue du Cirque. Bientôt. Alors maintenant, pour finir, on va faire Emmanuel Macron. Vous avez le choix entre, suivant votre positionnement actuel par rapport aux Gilets jaunes, Superman, ou alors À bout de souffle, ou alors Le Lauréat, le premier film sur les cougars.
À bout de souffle.
Le Lauréat, je serais pas mécontent de l'entendre.
Alors on fait les deux. D'abord À bout de souffle, c'est parti.
Je veux avoir un mot pour tous ceux qui tissent le lien de la nation, œuvrent à la fraternité quotidienne.
Ça fonctionne. Hein.
Et qui, ça fonctionne, ce soir, et c'est là qu'on voit qu'il a une diction rétro un
exactement
peu.
Exactement.
Ça fait tout de suite film des années 60.
Ouais. Je pense tout particulièrement.
Parle doucement.
Ah, c'est un peu notre bébelle. Alors, Le Lauréat, maintenant.
Je veux avoir un mot pour tous ceux qui tissent le lien de la nation, œuvrent à la fraternité quotidienne et qui, ce soir, sont aux côtés des
ça
plus
marche moyen
vulnérables.
Bah, essayons Superman pour rire un petit coup.
Je veux avoir un mot pour tous ceux qui tissent le lien de la nation, œuvrent à la fraternité quotidienne
ça marche aussi.
Et qui, ce soir, sont aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, auxquels je pense tout particulièrement.
Allez, merci Manu. Je me tourne vers notre rose des sables, la délicieuse Anissa.
Eh bien là, nous sommes encore sur une égalité entre Marc Jolivet et François Rollin. Ça va être difficile de les départager. Oui.
Mais vous ne comptez pas les points.
Je compte tout.
Vous êtes repérés.
Je compte tout. Tous les jours, sur Europe 1, à partir de 16h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs pour jouer avec l'actu.
Alors mon cher tonton François Rollin, eu égard, comme d'habitude, à ton statut incontestable et incontesté du droit de l'humour absurde, qui parfois flirte dangereusement avec le non-sens, je vais te soumettre, ainsi que Marc Jolivet ici présent, au quiz des faits divers absurdes. Jingle.
Et là, c'est le drame. Oh.
Je vous donne le début d'un titre de presse et vous devez tous les deux m'aider à deviner la fin. Tu vas voir, tu aurais pu les inventer, François, tellement ils sont fous, mais ils sont tous vrais. Il commande sur Internet un kit pour agrandir son pénis et il reçoit quoi ? Qu'est-ce qu'il reçoit ?
Près de 5 kilos.
Une pince ?
Une pince pour agrandir son pénis.
Oui. C'est dans l'esprit.
Tu
c'est
dois
dans
avoir
l'esprit.
Un très petit pénis, Marc.
Oui.
Comment on peut agrandir quelque chose? Par quel but?
Un souffler dedans.
Oui.
Non.
Un ballon.
Souffler dedans.
Une poêle pour la mettre dans l'eau bouillante et la faire gonfler.
Non.
Plus simple que
c'est
ça.
Plus simple.
Lâche-toi quand essayé, tu te la mets dans
non,
l'eau bouillante.
Non, je n'ai jamais essayé.
Plus simple que ça encore.
Non, c'est plus simple.
Non, c'est simple.
De l'engrais,
c'est,
de l'eau.
C'est très drôle ce qu'il a reçu. C'est très drôle.
Pour agrandir.
En tout cas, pour la voir plus grande.
Ah, t'as de l'air,
une
du
loupe.
Shit.
Une loupe.
Non, oui.
Bonne réponse du shit.
Ah, oui.
Tu vas, toi. Bonne réponse de François. C'est une info au sud info. Un cambrioleur réveille ses victimes. Pourquoi?
Pour leur demander le code de l'alarme, pour débrancher
presque.
L'alarme.
Presque.
C'est presque ça.
Presque. Un code que tous les jeunes veulent dès qu'ils arrivent quelque part.
Oui, le code Wi-Fi.
Et voilà, c'était dans le progrès. Lot et Garonne, elle retrouve l'amant de son mari. Comment?
Ah ouais, c'est horrible.
Et avec qui?
Avec un policier à qui elle a demandé. Non.
Alors, avec l'aide
mari.
De son père dans le lit de sa fille.
Là, alors, c'est trop compliqué.
Hey.
Elle le retrouve nu. Mais avec qui? Et là,
elle en trouve
et là
de
l'audience
avec
va exploser. Non.
Trop simple, trop simple.
Avec quelqu'un qui fait partie de la famille, mais qui, je vous le donne en mille, n'est pas un humain.
Avec son
le chien.
Le chien. Bonne réponse commune.
C'est horrible.
C'était dans le Dauphiné, libéré. Flashé à 154 km/h sur la nationale pour... Pourquoi? Il y avait une raison. C'est
ça,
pas
c'est
juste
incroyable.
Qu'il se marrait et c'est énorme.
Il a été obligé de le faire,
oui.
C'est ça?
Il s'est obligé à le faire.
Il s'est obligé à le faire.
Voilà, mais pas pour une raison genre ta femme accouche, je sais pas quoi, tu vois.
Il s'est dit que c'était une bonne idée.
Voilà, c'est une bonne idée pour obtenir ce qu'il voulait. C'est vrai que c'est une bonne idée.
Quelque chose qui est plus lent à faire. Donc là, il a dit, je vais accélérer le processus en roulant vite.
La mettre en panne sèche.
Plus simple que ça. Écouter la radio, sa radio démarre quand il accélère. Je sais pas. Putain, j'ai envie d'écouter Europa, c'est l'émission de Carl Zéro, je pense.
Pour lui faire passer la barrière des 100 000 ou non?
Qu'est-ce qu'il y a sur la voiture quand elle roule vite? Ça fait quelque chose.
Ça fait quelque chose.
À l'extérieur.
Ça du siffle, bruit. Ça souffle.
Oui.
Ça
souffle, voilà, ouais. C'est lié au souffle.
Ouais. Ah, il voulait que ça chauffe plus vite, il avait besoin de chauffage.
Non,
c'est pas loin.
C'est pas loin.
C'est pas lui qui avait besoin de chauffage chez sa voiture. Mais pour quelle raison?
Pour enlever la poussière, la neige.
Et la troisième chose qu'on peut enlever...
Les extraterrestres qui
oui,
sont collés.
Alors,
parce
très
que
juste.
Sur le pare-brise, moi, souvent, j'en ai. J'accélère et ils dégagent.
Bonne réponse de Marc Jolivet.
Ah, tu vois.
Mais non, pas du tout.
Pour enlever l'eau.
Oui.
Et pourquoi il y avait de l'eau?
Parce qu'il avait lavé sa voiture.
Voilà.
Il voulait sécher sa voiture.
Voilà. Ah bah dis donc, ça a été dur. Alors absurde, à 91 ans, il réalise enfin son rêve. Alors, pour vous aider, je dis, c'est enfoncé. Mais enfoncé quoi? À 91 ans. Et il l'a enfoncé.
On
avec sa voiture.
Films.
Alors, attends, je tiens l'histoire. Il a foncé à 150 à l'heure. Les extraterrestres sont barrés du pare-brise. Il a enfoncé la porte de son voisin. Qu'il détestait depuis 91 ans.
Bonne réponse.
C'est
pas ça, mais.
C'était pas. Oui, je pense
moi.
Pas.
Il a enfoncé la porte d'un garage.
Mais écoute,
c'était son rêve.
Eh ben, tu vois,
eh ben, voilà.
C'est peut-être le mien, je viens de le découvrir.
Il va consulter pour des ballonnements. Comme ça arrive souvent à mon ami Marc. Et il apprend quoi?
Qu'il n'a rien, comme ça m'arrive très souvent.
Non.
Il y a quelque chose à l'intérieur.
Oui.
Il y a quelque chose qui le concerne et qui est un véritable retournement de situation.
Il a un sexe dans l'estomac.
Il y a une histoire de sexe.
Je confirme qu'il a un sexe.
Mais pas dans l'estomac.
Il est enceinte.
Pas loin.
Son sexe va jusque dans l'estomac.
certains jours. Peut-être.
Il n'est pas enceinte, mais il est comme un escargot, quoi.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'escargot? Il n'y a pas d'escargot. Il n'est pas enceinte, mais il est...
Il est une femme, c'est une femme.
Bonne réponse.
Comme les escargots, il est hermaphrodite.
Il est hermaphrodite et il le découvre en allant pour ses ballonnements.
Waouh.
Le choc.
Alors attention, ça c'est la meilleure. Il s'endort sur son clavier et fait quoi?
Il compose un tube sans le savoir, en dorme.
La tête repose sur le clavier, sa tête tombe sur le clavier, donc il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, ça va.
Il efface tout ce qu'il a composé.
C'est le contraire. Il était en train d'effectuer quelque chose, une opération.
À la banque.
Oui. Voilà.
Et il s'endort.
Il vide son compte en banque.
Et il s'endort sur le clavier. Qu'est-ce qui se passe ?
Il fait des virements.
Voilà ! Il était en train de faire un virement, il s'est endormi, et c'était un virement de 222 millions, 222. Wow. Et la banque a évidemment refusé de rembourser. Mes amis, je me tourne vers notre rose du désert, Anissa.
Eh bien, sur ce quiz fait divers absurde, c'est le maître de l'absurde qui l'emporte et qui mène.
C'était prévisible.
François Rollin est en tête face à Marc Jolivet. De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Alors Marc, au lieu du stand-up, tu pratiques le lie-down. C'est-à-dire que tu dialogues, par exemple, avec une voiture trop intelligente, tu sors vainqueur d'une attaque de drone, tu remets le César du meilleur dictateur, tu fais le bilan pas très carbone de ton ami Nicolas Hulot, ainsi que celui d'Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, Victor Hugo rencontre Johnny Hallyday au paradis. J'ai bien résumé.
Tu as tout à fait bien résumé.
Donc c'est un sacré bordel ce spectacle.
Oui, parce que c'est vrai que j'ai adoré imaginer Johnny qui arrivait avec Victor là-haut, qui dit « Où il est, celui qui a eu des funérailles nationales comme moi ? Il est où ? Oh, je suis là, Victor. Et alors, moi j'ai écrit « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la montagne. »
Non, la campagne.
Et toi ?
La
oui, c'est la même chose. Et attends, Victor, depuis le temps qu'il est là-haut, tu vois, il a eu le temps de faire tout, la montagne et tout. Et là, il dit « Et toi, Johnny ? » Il dit « Moi, j'ai écrit « Hé, toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ? Et c'est pour ça que t'as eu des funérailles nationales ? Non, non, j'ai pas payé mes impôts. J'ai eu 3000 maîtresses. » Et là, Victor Hugo dit « Ok, respect, allons boire un coup. Voilà. »
Alors, donc, des citations, vous l'avez compris, mais de qui ? De l'idole des jeunes ou de notre vieux tonton Victor ? Je vis au jour le jour, pour demain, pas pour hier.
Johnny.
Bonne réponse.
Oui.
Normal.
Il faut être rapide. Hein,
j'étais là quand il l'a dit.
Il faut être rapide. Ouais. Qui a dit « Je suis plus fort que les gouttes, désormais elles glissent sur moi comme les caresses sur le ciel. »
Victor.
Bah oui, Hugo, parce que Johnny ne connaît pas tous ces mots-là.
Johnny.
Et ouais, c'était un romantique, hein, Johnny, attention.
Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu.
Victor.
Oui, pourquoi pas.
Victor.
Oui, Victor.
Je t'ai rattrapé. Hein. J'ai toujours cultivé le mensonge comme un art très rare. Non pour le plaisir de mentir, mais surtout pour inventer des histoires.
Bah, Hugo, Victor. Évidemment, quoi.
Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday en interview. Non.
Alors
non,
écoute,
non.
En interview, peut-être écrite par Daniel Rando.
Voilà, c'est ça, oui, vachement réécrite.
Ah bah, oui,
il était incapable d'une pensée aussi élaborée.
Structurée, incapable. Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois.
Ça, Johnny, ça c'est très bien.
Victor Hugo.
Mais c'est la France d'en bas, tu représentes d'en bas, t'inquiète pas.
Quand je suis triste, je pense à vous comme l'hiver, on pense au soleil.
Johnny.
Hugo. J'aimerais apprendre à dire non pour ne plus me retrouver à dire oui sans faire attention.
Ça, c'est bien Victor. Johnny aussi, quand même.
On a Victor.
Non,
Johnny.
Là, le point est pour François. Effectivement, c'est Johnny. On est stupéfait de la quantité de critiques que peut contenir un imbécile.
Victor.
Oh oui.
Un point tous les deux. Bravo, c'était Victor Hugo. Méfions-nous des gens trop heureux, ils doivent avoir des choses à cacher.
Johnny.
Non, Victor, mais ça me rappelle encore quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça.
Emmanuel Macron.
Non, mais un autre littéraire. Enfin bon, Victor peut bien l'avoir dit.
Et pourtant, c'est Johnny.
Mais t'as pas bu autant de coups avec Johnny que moi aussi, c'est ça.
La musique, c'est du bruit qui pense.
Oui, ça c'est Victor.
Oui, Victor.
Bonne réponse, bravo les garçons. Je ne suis jamais seul à moins que je lis.
Ah, on va dire Johnny.
Évidemment, c'était Johnny. Et Anissa va nous donner le bilan de cette quatrième manche.
Eh bien, légère tête. Mais alors vraiment, hein, ça s'est joué à un point. C'est toujours François Rollin qui mène face à Marc Jolivet. Ça a été très
bien
serré.
Remonté quand même.
Très
bien.
Ça a été très serré. Europe 1. Dès 16h, tous les jours, du lundi au dimanche sur Europe 1, Carl Zéro et ses tontons flingueurs s'amusent avec l'actu.
Alors tout à l'heure, Jolivet s'est vanté, il a dit qu'il avait les gènes de Mandela. Les gènes de qui encore? De Gandhi.
De Gandhi. Et des talibans aussi.
Des talibans,
ah, oui. Ben, car quand on fait une recherche ADN, on découvre, c'est vrai, vous le savez, nous sommes tous issus d'un filament d'acide désoxyribonucléique. Et donc il est prouvé qu'il n'y a pas deux ADN identiques et qu'on peut se retrouver avec des gènes de talibans beaucoup plus proches que celles de son enfant.
Alors jingle. La vie, la vie.
Il va dire qu'il ne connaît pas.
Non, Carl. Mais vous avez vécu dans une grotte?
Oui. J'ai vécu dans une grotte.
La vie. C'est Michel Legrand qui faisait la musique. C'était un dessin animé qui passait à la télé quand on était petits dans les années 80-90. Et qui
dans
vous
les années
la...
80, je n'étais pas petit du tout. Et on n'écoutait pas La vie, mademoiselle. Non, mais je rêve. Bien, alors donc c'est un quiz ADN. De quand date la première utilisation de l'ADN dans une affaire criminelle?
De 1977.
En 1987.
Ou de 1997.
Peut-être 97. Hein,
Moi, je dirais 87.
Et il rattrape le point qui lui manquait, Marc Jolivet, bravo. Elle a permis l'arrestation d'un tueur et violeur en série. Ton frère, Pierre Jolivet. Mais l'affaire a été étouffée. Combien de pourcents de son ADN l'homme de Néandertal nous a-t-il légué?
Il nous a légué 1%.
Il nous a légué 3%.
Il nous a légué 25%.
À quel moment vous sentez-vous un peu Néandertal?
3%.
Toi, François, 25 plutôt.
Non, 1.
1%. La bonne réponse est encore pour Marc. Je crains qu'il ne prenne la tête. 3%. Comme l'ADN, les empreintes digitales sont uniques. Mais quelle autre partie du corps humain, elle, aussi, est unique? Anissa, vous dites rien.
La pupille. La pupille.
Les genoux.
La langue.
Ou les aisselles.
Ah, bande de satrapes.
La langue.
La langue pour François. Les aisselles de Marc sont uniques. Mais c'est François qui marque le point. C'est la langue qui est unique. Qu'ont révélé les analyses de l'ADN du roi anglais Richard III, redécouverte en 2012?
Que la couronne d'Angleterre actuelle descend d'un enfant illégitime.
Des traces d'un premier Brexit en 1178.
Ou que Stephen Bern était un héritier putatif de la couronne d'Angleterre.
Oh.
Là, il n'y a que le 1 qui est plausible.
Ben oui, bien sûr, enfant illégitime.
Stephen Bern est effectivement...
Je l'attendais.
Mais non. Bien sûr, c'était la première. Bravo, un point pour chacun. Si on s'amusait à dérouler l'ADN comme une pelote de laine, combien de fois pourrait-on faire le tour de la Terre?
On pourrait le faire 1 million de fois.
5 millions de fois.
Ou 50 millions de fois.
50 millions de fois.
Chacune de nos cellules contient environ 2 mètres d'ADN. Mais combien avons-nous de cellules?
On en a beaucoup.
Et la règle de 3 et la réponse tombent d'elles-mêmes.
Oui, mais ça va être, de toute façon, je sais, ça va être la réponse du milieu, comme toujours dans votre quiz. Marc, il l'a bien compris, depuis tout à l'heure, il tape au milieu.
Alors là, je dis 50, je dis le maximum.
Le maximum, et toi, tu dis le milieu.
Oui.
Et bonne réponse, le milieu. 5 millions.
Ouais, c'est ça, c'est un truc incroyable.
Chaque être humain possède entre 50 000 et 100 000 milliards.
Qui dit mieux?
Quel peintre a réalisé pas moins de 9 tableaux inspirés par la structure hélicoïdale de l'ADN?
S'agit-il de Picasso?
S'agit-il de Salvador Dali?
Ou de Francis Bacon?
Oh, ça ressemble à Dali.
Dali.
Si je vous dis que le nom de la toile, c'est le grand masturbateur dans un paysage surréaliste avec ADN,
ça
confirme. Et un point pour chacun, c'était Dali. Attention, la dernière. De quoi sont accusés les découvreurs de l'ADN? James Watson, Francis Crick, et Maurice Wilkins.
Ils sont accusés de s'être approprié le travail d'une femme.
Ils sont accusés d'avoir tenté de revendre leur découverte aux Russes.
Ils sont accusés d'avoir voulu analyser l'ADN des Spice Girls sans leur autorisation.
Le travail d'une femme, oui.
Les Russes.
Les Russes pour Marc, la femme pour François. Et c'est une victoire, suspense, de François. Eh oui, ces petits salauds ont voulu piquer le travail de cette femme formidable. Anissa, une autre femme va nous donner le bilan.
Eh bien, grâce à cette toute dernière question, c'est François Rollin qui reprend l'avantage et qui mène.
C'est incroyable. Face à comment on va les départager?
Je ne sais pas. On attend. Des tontons flingueurs, Carl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur. C'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1 à partir de 16h.
Et nous avons l'habitude, dans cette émission des tontons flingueurs, de massacrer quelques tubes du répertoire français. Mais aujourd'hui, comme vous êtes clairement tous les deux de formidables chanteurs rentrés, on l'a vu au début, vous avez tous les deux chanté, ce ne sera pas le cas, vous allez les magnifier. D'autant que j'ai choisi pour chacun d'entre vous votre chanson favorite suite à des indiscrétions. En parlant à vos épouses respectives, j'ai découvert avec horreur que votre passion secrète, votre péché mignon, a pour nom Michel Sardou. Alors, on va commencer par François. François, qui sait se faire crooner autant que poète quand il le faut, dans ce style mi-parlé, mi-chanté. Oui. En plus, il a le timbre exact de la célèbre chanson de Michel Sardou, « Je vole ». Musique, maestro. Quand tu veux.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, hein, mais je pars.
Putain, l'âge des parents, t'imagines ?
Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole.
Vas-y.
Sans fumer, sans alcool, pas beaucoup, je vole, je vole. Et ça, c'est le vrai texte après que j'ai sous les yeux.
C'est le vrai texte.
C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'un trait en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds comme les soirs où je rentrais après minuit pour ne pas qu'il se réveille.
C'est beau.
Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose.
Je suis cette version.
Son outing.
C'est bon.
Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien. Tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire. Et mon père a souri.
Formidable, vraiment.
Très émouvant. Très émouvant. François et ses très vieux parents. C'était magnifique. Et maintenant, c'est au tour de Marc. Et pour un tel érotomane, une personne qui est capable de faire grandir son pénis avec une pince, il n'y avait que femmes des années 80. Car Dieu sait s'il en a connu beaucoup des femmes dans les années 80. Je m'excuse, Camille. Tu n'as que 12 ans et tes chasteuses oreilles. Mais tu es le pur produit de ces aventures mystérieuses. Attention!
Dans un voyage en absurdie, je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. Que je vivais dans l'étrange drame d'être une femme.
Attention.
Attention.
Ah, attends. 5, 4, 3.
Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins calme que Harlequin, semblant crochée sur la gamine qui a dû vivre au temps des larmes. Femme des années 80.
Là, j'ai Michel en larmes au téléphone.
On connaissait bien son répertoire.
Tu l'as pas souvent écouté, celle-là. Eh bien, alors là, je
non, ils sont impossibles à départager. Ah, ne me regardez pas, ne me regardez
mais
pas.
Je vous regarde.
Il n'y a pas de point.
Vous êtes notre juge arbitre.
Eh bien, nous allons déclarer, une fois n'est pas coutume, une égalité dans cette émission entre François Rollin et Marjorie
Pérez. La France est enfin réconciliée. Voilà un geste populaire et sympathique. Alors, je ne rappelle pas les prix. Par contre, Anissa, vous nous rappelez
oui,
leurs
ce que
actus.
Font nos tontons flingueurs. Bien sûr, François Rollin, il présentera la cérémonie de clôture du Festival des Arts Burlesques entouré de jeunes humoristes. C'est samedi qui arrive, le 2 mars à 21h au Centre des Congrès de Saint-Étienne.
Nous y serons.
Et puis, je vous rappelle que François Rollin, c'est le metteur en scène de la comédie tendre et musicale La Promesse du Papillon, qu'il faut absolument aller voir au Théâtre des Variétés. On vous recommande cette pièce.
Il y a Marc beaucoup de Jolivet. Chansons de Michel Sardou dedans.
Absolument, non, les plus grands tubes de Michel Sardou.
L'auteur de la pièce, c'est Damien Luce, et Damien est le frère de Renan Luce.
Oh, donc ça reste dans
la famille stars. De la chanson.
C'est formidable.
Et Marc Jolivet, ça c'est quand même la grande bonne nouvelle de ce début d'année. Il est de retour avec un tout nouveau spectacle, ADN, à partir du 28 février jusqu'au 21 avril. 30 représentations exceptionnelles au théâtre de la Tour Eiffel.
Et il exploite sa fille Camille,
avec
âgée
Camille
de 12
Jolivet.
Ans, lamentablement.
Tous les week-ends de 16h à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. La suite, c'est juste après les infos de 17h.
Chers amis, mes bien chers compatriotes, s'ils ne sont pas issus du même monde, c'est tant mieux pour ce jeu. Car chacun, dans sa spécialité, est une pointure. Que dis-je ? Un maître que le monde entier nous envie. À ma gauche, l'écrivain de la prose brève qui en dit long, Philippe Delerme. Et à ma droite, le publicitaire des longs briefs qui les résume en bref, Franck Tapiro.
Merci.
Mais de rien, c'est naturel, comme Europe 1, et c'est la pêche. Mes chers tontons flingueurs, vous allez donc devoir répondre avec autant de sagacité intellectuelle dont je vous sais équipé que d'honnêteté culturelle dont je vous sais doté un nombre sidérant de questions politico-sociétales. Le gagnant de ce quiz en 6 manches repartira avec un cadeau de dingue. Mais d'abord, il faut choisir votre camp, Anissa. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, je vais tendre l'urne transparente à Franck Tapiro.
Car l'un des deux doit jouer pour la France d'en haut et l'autre pour la France d'en bas. Et on va savoir pour qui Jean joue, pardon, Franck Tapiro.
J'ai l'honneur et l'immense privilège de représenter la France d'en bas.
Il joue pour la France d'en bas, on l'applaudit. Alors, c'est donc notre ami Philippe Delerme qui jouera pour la France d'en haut. Mais je commence par ton lot, Franck Tapiro, puisque tu joues pour la France d'en bas. Si tu gagnes, tu repartiras pour un week-end de solidarité avec tes camarades de Pôle emploi Bretagne. Tu iras au centre de contrôle de Pôle emploi de Rennes, situé dans la très jolie zone industrielle de Chantepie, que tu connais. Il s'agit de le réhabiliter, ce centre, puisque vendredi passé, des individus très remontés, d'après la presse, s'en sont pris au matériel en arrachant les fils, en dégradant les téléphones fixes et, je te le donne en mille, en urinant sur un ordinateur. Le montant des dégâts étant estimé à 3 000 euros, tu les rembourseras de ta poche.
Bravo. Quelle belle nouvelle. Merci Carlito.
Quant à toi Philippe Delerme, puisque tu représentes la France d'en haut, si jamais tu gagnes, eh bien tu auras un traitement égal à celui de nos 4 anciens présidents de la République française, comme Giscard, Chirac, Sarkozy et Hollande, soit 15 millions d'euros par an. Car c'est ce qu'il nous coûte. D'accord. Déjà 24 000 euros nets de pension, 66 000 euros bruts mensuels pour siéger au Conseil constitutionnel. Et puis tous les petits avantages que tu adores, Philippe. Des appartements de fonction comme s'il en pleuvait, du personnel de maison à trousser, 28 collaborateurs et 8 lignes de téléphone, on l'applaudit.
Je préfère le centre commercial Champy, personnellement.
Alors, avant de peut-être gagner ces très beaux cadeaux, Philippe Delerme, il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec son tout dernier livre. Vous avez eu beau temps, La perfidie ordinaire des petites phrases. C'est paru aux éditions du Seuil en fin d'année dernière. Alors, en fait, dans ce livre, on retrouve des petites phrases du quotidien, fines et ironiques, du
on
genre.
On va en parler.
je me suis permis, vous êtes un type dans mon genre, ça n'ira pas plus bas, tiens, rends-toi utile, et bien d'autres.
On va longuement en parler dans un petit truc qui arrive.
Franck Tapiro est président de la société Hémisphère Droit, cabinet conseil en créativité. Il est Chief Emotion Officer de la start-up Datacalab. Et le 22 janvier dernier, l'Union des annonceurs a dévoilé les 7 lauréats de la deuxième édition de son laboratoire créatif, lancé par Franck Tapiro, dédié cette année à la créativité publicitaire sur les ondes, avec un jury présidé par
Carlito. Zéro. Eh oui, c'est vous dire si on a triché. Merci Anissa.
On va passer au bio fake news maintenant, Carl.
Mais pourquoi pas, jingle. Et comme nous allons commencer par tonton Philippe Delerme, il se trouve que nous avons la chance d'avoir retrouvé son plus vieil ami. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. Nicolas, c'est à toi.
Bon, je vais vous faire une confidence. Avec mon ami Philippe Delerme, on a grandi ensemble, dans le même village. Pour lui comme pour moi, le premier émoi amoureux est né à l'adolescence, dans l'atmosphère sensuelle de l'été. On pédalait ensemble sur les coteaux autour de Moissac. Tiens. On était tombés raides dingues de la même jeune fille. Devant elle, il se prenait pour un petit poulie d'or. Et moi, je sublimais l'effort physique en gonflant mes petits mollets.
Allons bon.
C'est ce que j'appelle l'amour silence. Le fait de croiser un regard, de ne pas prononcer un mot. La fille reste inaccessible et merveilleuse. Parce qu'on ne l'a jamais rencontrée vraiment.
Alors ça, c'est de Philippe Delerme. C'est pas de vous, Nicolas Sarkozy.
Mais vous fumez, monsieur. Non, c'est lui. Il m'a tout pompé.
Presque une rencontre avec Carla Bruni.
Le talent, c'est moi.
Ganesh, reprenez-vous. Je vous rappelle que vous êtes stagiaire de BFM TV. Alors vous reprenez votre voix de BFM TV, vous continuez et vous me lâchez la grappe. Allons-y.
L'un des grands talents de l'écrivain Philippe Delerme consiste à savoir écouter et regarder la comédie humaine pour y glaner, ça et là, ces petites phrases faussement ordinaires afin de révéler ce qu'elle cache de perfide ou d'hypocrite. Mais ça, c'est Nicolas Sarkozy qui lui a appris à les repérer.
Ganesh, tu ne recommences pas. Philippe, excuse-le, il est jeune, il ne sait pas qu'il est à la radio. Le thème de ton dernier livre paru, Anissa le disait, c'est ce livre sur les petites phrases perfides, ordinaires de la vie quotidienne. Alors, je t'en donne quelques-unes et tu expliques en quelques mots leur sens. Nous sommes d'accord?
Ok.
Et tu n'as rien vu venir?
Alors, ça, c'est une phrase un peu triste, c'est la phrase de la séparation amoureuse quand quelqu'un est quitté par qui il aime. En fait, c'est assez vache d'entendre les bonnes copines qui finissent toujours par dire « Et tu n'as rien senti venir », comme s'il fallait ajouter à la déception amoureuse le fait d'avoir été d'une naïveté crasse, et ce qui est bon, ce qui n'est pas fait pour vraiment retrouver le moral. Et c'est vrai que ça, c'est une chose voilà, il y a une espèce de gourmandise, j'ai appelé ça la compassion gourmande, quoi. Quand on a quelqu'un comme ça, près de soi, assez proche, mais pas vraiment une amie ou un ami, mais avec qui on peut exercer cette fausse compassion comme ça, qui est en fait extrêmement savourable et gourmande. C'est bon, c'est un petit peu là un nœud de l'hypocrisie humaine, je crois.
Et quand on dit « il n'a pas fait son deuil ».
Oui, ça c'est une phrase qui est toujours employée sous la forme négative et que je trouve parfois un petit peu obscène, comme si dès qu'il y a une catastrophe aérienne, on parle tout de suite de retrouver la boîte noire. Et après, une fois que la boîte noire est retrouvée, on dit « ils vont pouvoir faire leur deuil », comme s'il y avait une façon comme ça d'évacuer la mort avec cette expression. Je trouve qu'elle est assez obscène, cette phrase.
Vous pouvez retrouver tout ça dans son super bouquin, on l'applaudit. Et maintenant, c'est le tour de tonton Tapiro.
Alors, Franck Tapiro, tant que Ganesh fait votre pub, vous le laissez dire. Mais dès que ça vous dessert, vous pouvez hurler à la fake news.
Franck Tapiro est ce qu'on appelle un petit prodige de la publicité. Oui. Pourtant, au départ, c'était loin d'être gagné.
Oh oui.
Né dans une famille de rapatriés, Franck est le vilain petit canard de la famille.
Oh là là.
Alors que ses frères caracolent aux premières places, Franck est un piètre élève à l'école où il ne franchit pas la barre de la sixième, qu'il redouble 6 fois.
Hélas.
Il ne va pas mieux réussir dans ses études supérieures. Il tente médecine, rate les inscriptions, se retrouve en faculté de pharmacie et fait un malaise le jour de la rentrée. Et puis, il échoue à l'Institut supérieur de gestion en 1984, mais là, c'est le déclic. En voyant une publicité à la télé pour la barre Ovomaltine, il décide en 8 secondes de monter une agence de publicité étudiante.
Et là, le Tapiro a une bonne idée. Il réclame des stages aux grandes agences de pub avec ce slogan « Adoptez l'enfant pub ». Ouais. Une référence à notre père putatif à tous, Jacques Séguéla. Et là, le miracle, Séguéla t'envoie un télégramme. Ouais. Il a écrit quoi ?
Il a écrit « J'adopte, tendresse, Jacques Séguéla ». Alors au début, je me suis dit c'était forcément un canular.
même si c'était un Telex à l'époque, c'était même pas un Telex, c'est le Telex existait.
Carrément.
Un pneumatique, limite, le pigeon voyageur. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être ça. Alors j'appelle fébrilement l'assistante de Jacques Séguéla, elle me le passe tout de suite. Là, je tremblais tellement que j'arrivais à peine à balbutier quelques mots. Il me dit avec son accent inimitable, Francky, mais je t'adore, j'adore ton projet, viens me voir, formidable. Et là, je me dis, mais nom de Dieu, c'est le vrai Jacques Séguéla. Et là, ma vie a basculé.
Eh oui, Ganesh.
Franck Tapiro est un véritable dingue de politique, toujours prêt à mettre ses idées au service de ceux en qui il voit une chance pour la France. Oui. Jeune, il est séduit par le baladurisme et propose aussitôt à Édouard Balladur, lui-même, ce slogan pour les élections de 1995. Un Turc goitreux à l'Élysée et la France sera sauvée.
Ah mais c'était bon ça. Il était bien slogan.
Il y avait une chance. C'était une vision assez étonnante, assez émotionnelle de la politique.
Je vais placer la plus méchante vanne de des proches qui avait dit « Il y a trois choses que je reproche à Édouard Balladur. » C'est son menton.
Et on se tourne vers la Rose des Sables, l'héroïne du désert.
Alors, bah écoutez, sur cette première manche, je pense qu'ils ont été tous les deux très honnêtes. Ils nous ont dit presque toute la vérité. On va leur accorder un point chacun. Il y a une égalité entre Philippe Delerm et Franck Tapiro.
On fait comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Alors, ça, ce sont les sons, mes chers tontons, qui vont vous représenter pendant toute l'heure. Dès que vous serez en tête dans les points, on entendra votre jingle. Pour Philippe Delerm, c'est ça. C'est la chanson du Barça, du FC Barcelone.
Je ne connais pas, je vivais dans une grotte.
Comme d'habitude. Philippe Delerm est un grand, grand fan de foot. Il aime beaucoup Andrés Iniesta. D'ailleurs, vous avez dit il n'y a pas très longtemps, Iniesta, c'est Dorasso qui a réussi.
Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai entendu Brasseur, puisqu'on me parle toujours de la première gorgée de bière. En fait, donc...
Brasseur.
Et cette chanson, je vous le dis, Karl, parce que ça va vous intéresser.
Et j'ai vis dans une grotte.
Elle a été écrite, cette chanson, par l'oncle de Manuel Valls.
C'est la
chanson du Barça.
Mèche qu'un club, qui est le slogan et... De Barcelone.
Du Barça, bien sûr. Exactement.
En catalan, mèche qu'un club. Plus qu'un club. Plus qu'un club. C'est du catalan, enfin, voyons. Ouais.
Catalan, cher plus Emmanuel Valls, on l'applaudit.
Et Franck Tapiro.
Ah, il a un jingle aussi.
Bah, bien sûr qu'il a un jingle quand il sera en tête dans les scores, c'est ça. Souvenez du générique de Culture Pub.
Là, j'étais sorti de la grotte ce jour-là.
Europe 1. Karl Zéro et ses tontons flingueurs font le tour de l'actu jusqu'à 18h sur Europe 1.
Alors Franck, en 87, tu entres en stage chez Euro-RSCG. L'agence travaille notamment sur la campagne de François Mitterrand, qui, bien que très mal en point dans les sondages, c'était la cohabitation, songe déjà à se représenter, à forcer le sort. Il y a là Jacques Séguéla, et il y a là le chanteur Renaud. Et là, le jeune Tapiro dit « Je vois bien Renaud dire à Mitterrand, allez tonton, laisse pas béton
oui. ».
Et le slogan absolument. Est adopté.
C'est une boutade, en fait, lors d'une réunion avec Renault, qui voulait absolument trouver un slogan pour pousser Mitterrand à se représenter, pousser les Français à dire à Mitterrand, vas-y, retourne-y. Et je lance, parce que c'était mon démarrage, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent. Je lance une phrase comme cela, en disant, au bateau le café laisse béton, on n'a qu'à dire, tonton laisse pas béton, j'éclate de rire. Là, il me regardait sérieusement, il me fait... Ça, c'est une bonne idée. Et moi, je fais « Ah non, je blaguais, là !» Cette petite blague a fini un peu partout, dans les journaux, et dans les manifs, et dans les livres, et même dans les livres d'histoire, ce qui est incroyable pour vous dire que, en fait, on marque l'histoire parfois sans vraiment le vouloir.
Quelques mois plus tard, tu votes Mitterrand, tu dis « C'était ma génération, bien sûr, ensuite, j'ai déchanté. » Alors, je vous propose de continuer à déchanter, même si l'eau a coulé sous les ponts, et qu'avec le recul, même les pires ennemis de tonton lui trouvent des qualités comparées avec, évidemment, ce qu'on on a maintenant jingle.
Vas-y, tonton, la France te demande. Vas-y, tonton, les villes et les cantons ont tous pour toi.
Un inédit de Charles Trenet, réel.
En ce beau jour,
il n'a jamais sorti.
À l'unisson, vas-y, tonton.
Et ouais, il était comme toi, il était pour tonton.
Ça aurait pu être le jingle de la campagne.
Mais attends, et c'est parce que tu avais lancé ce slogan tonton qu'il a fait cette chanson.
Bien entendu.
Charles Trenet, vas-y, tonton. On se concentre. De quelle série télévisée François Mitterrand a-t-il eu l'idée ?
L'Instit ?
Plus belle la vie ?
Ou le commissaire Moulin ?
Je sais que l'Instit, c'était très gouvernemental, donc je dirais l'Instit.
Ouais, parce que Plus belle la vie, ça a été plutôt coopté par Chirac après, mais je me demande, ça a été apprécié par Chirac, mais si quelqu'un l'a inventé, ça peut peut-être être Mitterrand.
Plus belle la vie. Eh bien, la bonne réponse, c'est l'Instit, effectivement. L'Instit. Un point pour chacun, Anissa, faites votre travail.
Non, Franck Tapirou, il a dit plus belle la vie.
Plus belle la vie. Hein.
Donc c'est un point pour Philippe Delerme. Laissez-moi faire mon travail.
De quoi Mitterrand fut-il accusé par le journal Le Quotidien de Paris lors de sa réélection de 88?
Il fut accusé d'avoir introduit des images subliminales de lui dans le générique des infos de France 2.
Il est accusé d'avoir saboté en sous-marin la campagne de Chirac.
Ou alors il fut accusé d'avoir 17 enfants cachés.
Ça, je me rappelle l'image subliminale dans le bleu et rouge de France 2. Alors, ça, est-ce que c'était une rumeur ou pas? C'est vrai que ça lui ressemblait énormément. Maintenant, les 17 enfants cachés, en fait, c'est pas vrai parce qu'il en avait beaucoup plus. Donc, je le fais par élimination.
Image subliminale et toi, Philippe?
Ben, moi, je vais être très stratégique puisque, en fait, malgré ce que vous disiez, Karl, en fait, je mène 1-0. Donc, maintenant, il me suffit de dire la même chose que mon adversaire pour gagner à la chose.
Il est très intelligent. Il est très intelligent.
C'est un jour d'échec, c'est pas un jour de foot.
Bonne réponse des deux. De quel magazine François Mitterrand fut brièvement le rédacteur en chef en 45?
Nylon Magazine, le magazine des bas modernes.
Votre beauté.
Ou Libération?
Ouais, Libération. Oui.
Votre beauté, mauvaise réponse de nos camarades. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas.
Votre splendeur, j'aurais dit votre splendeur, oui, pour Mitterrand, oui, mais votre beauté.
Dans un message vidéo très intrigant, enregistré pour être diffusé après sa mort, que révélait Tonton?
Ah oui.
Je crois aux forces de l'esprit.
Je crois, donc je suis.
Je crois aux forces du mal.
Bonne
réponse. Les forces de l'esprit.
Obi-Wan Kenobi, hein, l'Obi-Wan Kenobi de la politique, qui réapparaît même après sa mort.
C'est très juste. Attention, de quelle biographie d'acteur François Mitterrand a-t-il accepté d'écrire la préface? Il ne l'a fait qu'une fois.
De la préface de Darry Cole?
La préface de Philippe Noiret?
Ou la préface de Jean Carmé?
Oula, ah, j'aurais dit Anna, mais je... mais malheureusement, la synchronisation était mauvaise. Ah, je dirais Noiret, mais...
Noiret.
Mais bon.
Carmé, ça serait rigolo, mais ouais. A priori, je pense qu'il est plutôt Noiret. Quand même.
Plutôt Noiret.
Bonne réponse des deux, c'est effectivement Philippe Noiret.
Ça, le vieux fusil, là, un peu plus inspiré que le grand blond avec la chaussure noire, en gros.
Oui, ou Dupont la joie. Et que le triporteur avec Darry Cole. Comment s'appelait le chien Terre-Neuve de François Mitterrand?
Pupus.
Baltique.
Arctique.
Baltique.
Bonne réponse, Baltique, ouais. C'était facile. Ouais. Quel est le chanteur de musique de jeune qui a consacré deux chansons à Mitterrand?
Renaud.
Daniel Balavoine.
Michel Fugain.
Moi, je dirais plutôt Balavoine.
Pas Fugain, en tout cas.
Bon, Fugain.
Deux chansons.
Ouais, on va dire Renaud.
C'est Renaud,
Renaud, bonne réponse. Tonton. Et Baltique, qui rendait hommage au chien. Ou plutôt à la chienne dont nous parlions à l'instant.
Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé. Peur que je ne lève la patte quelque part.
Baltique avait été interdite d'entrer lors de la cérémonie des obsèques de Jarnac de François Mitterrand. Et elle était restée sur le parvis avec Michel Charras, qui lui ne voulait pas assister à un office religieux. Et donc Renaud s'est inspiré de cet événement, ma foi, majeur pour écrire cette chanson qui restera dans les annales, Anissa.
Et bien sûr, cette manche spéciale Mitterrand, c'est Philippe Delerme qui est en tête face à Franck Tapirou.
Bravo,
Philippe. Europe 1. Tous les jours sur Europe 1 à partir de 16h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs pour jouer avec l'actu.
Comment recevoir aujourd'hui l'admirable Philippe Delerme, tour à tour moraliste, linguiste, sociologue, ethnologue, entomologiste du langage, des interactions sociales, sans célébrer son célèbre recueil de poèmes en prose, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules qui le fit connaître, exploser aux yeux du grand public en 97. Ce serait...
absurde.
Grotesque.
Dès lors, quoi de mieux qu'un quiz bière pour le faire?
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien.
Magnifique. Attention, on se concentre. La célèbre bière chinoise Tsingtao est d'origine...
allemande.
Japonaise.
Anglaise.
Oh. Elle n'est pas chinoise.
La Tsingtao?
Chinatown, elle n'est pas chinoise.
Je dirais anglaise alors.
Anglaise.
Ouais, moi j'ai envie de dire aussi, anglaise.
Elle est allemande. La brasserie a été construite par des colons allemands et ensuite récupérée par la Chine. Et vous êtes assez mauvais. Le premier cas de dopage des Jeux Olympiques a été provoqué par
un athlète suédois qui avait bu deux bières pour calmer son stress avant l'épreuve de tir en 1968.
Par un haltérophile biélorusse qui s'était fait une piqûre de kétamine dans la cuisse en 72.
Ou par un coureur jamaïcain adepte du Jalov et de ses préceptes.
Bah, c'est vrai que la bière ça calme, mais bon.
Non, je dirais l'haltérophile.
L'haltérophile pour Franck.
Je vais dire le tireur.
C'est effectivement l'athlète suédois, le champion de tir, qui a bu de bière. Mais en même temps, il y avait un indice, c'est un quiz bière.
Ah oui,
ah, c'est vrai.
Ah, mais j'ai compris qu'il avait pris une bière pour masquer le... Pardon. J'étais sur le produit masquant, comme si la bière pouvait masquer une petite
piqûre. Autant pour toi, on l'applaudit. Ah, allez. Oui. Ah, une question. Dans les bars, pourquoi rince-t-on le verre de bière avant de servir une bière ?
Pour limiter les aspérités et avoir moins de mousse.
Pour enlever les bactéries.
Ou pour rafraîchir le verre.
Pour rafraîchir.
Pour avoir moins de mousse, je dirais plutôt.
Bonne réponse de Philippe pour limiter
l'expert en bière. Avoir encore frappé.
La bière belge Piedbœuf, bière favorite de nos chères petites têtes blondes, a été servie dans les cantines scolaires de Belgique jusque dans les années...
70
80
ou 90
on va dire les années 90, allez.
Les années 90. Ouais, t'es un mon petit bonhomme.
Je veux dire 70.
70.
14 ans après la France.
70, 90. La bonne réponse, c'était 80. Les bras montants.
Annule sur la bière.
Comment appelle-t-on un collectionneur d'étiquettes et de sous-bocs de bière ?
Un sous-bocophile.
Un cervalo-bélophile.
Un sous-de-tablophile.
Ouais, sûrement cervalo-bélophile.
Cervalo, il le sait.
Cervalo.
C'est très, très drôle.
Cervalo-bélophile, bonne réponse des deux. En 2017, le festival danois Rockside.
Alors c'est Rockside.
Et vu que c'est danois, je suis sûr que c'est
Rockside. En 2017, un festival danois a proposé à ses festivaliers une bière, ma foi, spéciale. À partir de quoi avait-elle été faite ?
À partir de l'urine des festivaliers ?
À partir de l'eau usée ?
Ou à partir du pain ?
Oh bah ouais, ça va être une grosse connerie, la l'urine des festivaliers.
Espérons que c'est le pain. Donc c'est un message d'espoir, c'est une réponse d'espoir.
Réponse d'espoir, mais malheureusement.
Désespoir de
araignée
réponse.
Du soir. Effondrement de Tapiro, c'est l'urine des festivaliers. une urine qui avait servi d'engrais sur les plants d'orge qui ont ensuite servi à faire la bière.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Et bien sûr, ce quiz bière, c'est Philippe Delerme qui est largement en tête
bravo.
À Franck Tapiro.
Chance. Tapiro va se rattraper parce qu'arrive un quiz pub.
Europe 1. De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Et Franck Tapiro, le publiciste génial, le sait. Parfois, les pubs qui font scandale font aussi le triomphe de la marque. Et donc, voici le quiz des pubs qui ont fait scandale.
Sous mon tailleur, j'ai un soutien-gorge satiné et un porte-jartel assorti. Et là, je n'ai pas du tout l'intention de vous les montrer.
C'est un scandale.
Ah, pas mal.
Pour quelle raison, en 2018, la marque H&M s'est-elle attirée les foudres des internautes ?
Parce qu'il y avait un visuel jugé raciste.
Pour un visuel jugé homophobe.
Ou un visuel jugé révisionniste.
H&M.
Je crois que c'est raciste. Je crois que c'est raciste.
Pour toi,
moi, je vais forcément jouer comme Franck Tapiro.
Eh bien, effectivement, c'est raciste. Ils avaient fait poser un petit garçon noir.
Ah ouais, c'est terrible.
Avec un sweatshirt sur lequel était inscrit en anglais... Le singe le plus cool de la forêt. Ouais. Tu vois, la faute de goût.
C'est incroyable, costaud quand même.
Allez, oublions. En 2017, aux États-Unis, quelle marque de soda pétillant a été obligée de retirer en urgence le spot qu'elle avait tourné avec la demi-sœur de Kim Kardashian ?
Coca-Cola ?
Pepsi ?
Ou Sprite ?
Ah, c'est un peu récent quand même.
C'est récent.
On ne peut pas savoir la raison.
Alors, la marque avait été accusée d'exploiter à des fins commerciales le mouvement protestataire Black Lives Matter, qui dénonce les violences policières contre les Noirs américains.
Historiquement, je dirais plutôt Pepsi, parce que Pepsi, à l'époque, avait été la marque qui avait récupéré Michael Jackson hein, pendant pas mal d'années, avec The Taste of a New Generation. Et pour s'opposer un peu à Coca-Cola, qu'ils accusaient d'être un peu trop caucasien, même si Coca-Cola, c'est plutôt l'universalisme total. Voilà. mais à tort d'ailleurs, parce que Coca-Cola a toujours prôné l'universalisme, mais c'était une façon de se différencier. Donc j'irais plutôt Pepsi historiquement, mais encore
Pepsi.
Une fois.
Ah, courageusement, je vais dire Coca. Oui.
Et c'est comme ça que tu perds. Il ne faut jamais être courageux. Franck Tapiro, on l'applaudit, il avait raison. En 2017, quelle star de télé-réalité a prêté son image à une pub Jiffy, jugée sexiste et grossophobe?
Afida Turner,
Loana
ou Nabila?
Je crois que c'est Loana.
Elle vantait les mérites d'un jacuzzi.
Oui, je crois que c'est Loana.
Ah oui. Ah oui, allusion à une certaine piscine.
Voilà, à la piscine du Loft, et c'est donc bonne réponse.
Collégiale,
on va dire. Un point chacun. En 2006, quelle marque de jouets très célèbre a osé surfer sur les attentats du 11 septembre 2001?
Playmobil,
Lego
ou Mécano?
En quelle année? C'est récent aussi, ça. Donc, Mécano, ça c'était juste une torture qu'on m'infligeait comme perspective de cadeau de Noël.
Le Mécano est un peu oublié aujourd'hui, c'est vrai, Philippe.
Je crois que c'est plutôt Lego. Je crois qu'ils avaient fait une tour. Ils avaient rendu hommage, je pense, à ce terrible.
On va dire bonne réponse collégiale. C'était effectivement.
Je m'en tire bien.
Une campagne de mauvais goût. Il fallait, pour les gosses, reconstruire les tours du World Trade Center. En 2011. Une campagne Benetton pousse une fois de plus le bouchon trop loin. Que mettait-elle en scène?
Elle mettait en scène des malades du sida en phase terminale.
Elle mettait en scène des personnalités politiques qui s'embrassent.
Ou alors elle mettait en scène une collection de sexe masculin en gros plan.
Oh, des personnalités politiques qui s'embrassent.
Ouais, parce que le sida, c'était il y a bien longtemps, c'est les années 90.
Ouais. La bonne réponse, effectivement, c'est ces politiques qui s'embrassent, mais elle avait déjà fait les deux autres précédemment.
Ah oui, avant.
Voilà, donc on voyait le pape bécotant un imam, Sarkozy galochant Merkel, et Obama roulant une pelle à Hugo Chavez.
Fallait envoyer ça.
En 2017, quel site internet incitait scandaleusement les étudiants parisiens à se prostituer via des camions publicitaires circulant autour des facs?
Rich Meet Beautiful,
Young Sex and Money,
Funky Sugar Dating.
J'aime bien ça. Alors,
Ah, je dirais plutôt le dernier, il est pas mal fait.
Funky Sugar Dating, et toi aussi?
Ouais.
Eh bien non, ça c'est le petit site internet que Ganesh a essayé de lancer
depuis
la Réunion et qui n'a pas marché.
C'était
Rich Meet Beautiful. Il proposait de mettre en relation des étudiants ou étudiantes un peu désargentées avec des personnes plus âgés, de votre type, slogan, tu as vu comment je m'exclus, romantique, passion et pas de prêt étudiant, sortez donc avec un sugar daddy ou une sugar mama. Voilà, mais ça a été interdit, je vous rassure. En 2010, surfant sur la grossesse supposée de quelle star française, le loueur de voitures allemand Sixt proposait-il de louer une berline familiale?
Carla Bruni,
Julie Gaillet
ou Elsa Silberstein?
Sur quelle année ça?
2010.
Ça pouvait être Carla Bruni. Ou
2010. Ah bah c'est Carla Bruni. 2010 c'était pendant le quinquennat de Sarko. Donc
bonne réponse collégiale.
Ça c'était une façon pour les marques de rebondir par rapport à l'actualité et au contexte. C'est de provoquer très fort des grandes personnalités dans un seul but, c'est quoi? Qu'on parle d'elles et si possible qu'on leur fasse un procès. Ouais. Donc en général on conseille aux stars de surtout rien dire parce que sinon ça fait la pub de la pub et de la marque et au final ils gagnent sans avoir dépensé le droit d'acheter l'image d'une personne.
Et ce loueur de voiture, Sixte, quelques mois plus tôt, avait déjà tenté le coup en se moquant de la taille de Sarkozy en proposant une toute petite voiture à louer.
Et Charlie Hebdo a fait une
pub. Je ris, mais c'est nerveux.
Charlie Hebdo a fait une pub avec Brigitte Macron enceinte que certains ont trouvé d'un goût un petit peu discutable aussi.
La délicieuse Anissa.
J'ai tout bien compté sur cette manche. Eh bien, c'est le roi de la pub, forcément, qui l'emporte. C'est Franck Tapiro qui mène face à Philippe Deler.
Merci.
Dès 16h, tous les jours, du lundi au dimanche sur Europe 1, Carl Zéro et ses tontons flingueurs s'amusent avec l'actu.
Alors, mon cher Philippe, tu es un écrivain mondialement célèbre, mais en fait, tu as tout raté. Tu étais fan d'athlétisme, oui. Tu voulais être un athlète, ou à défaut d'être un champion, tu as caressé l'idée de devenir une très grande plume du sport. Mm-hmm, et finalement, tout ça ne s'est pas fait. Si tu as écrit dans l'équipe, tu as été consultant au JO de Pékin pour France mm-hmm. Télé. Oui. J'ai donc décidé de vous faire un quiz que n'aurait pas relié mon illustre prédécesseur Pierre Bellemare. Voici les histoires extraordinaires des Jeux Olympiques. En 88, à Séoul, l'allumage de la flamme tourna.
Au feu d'artifice.
Au barbecue géant.
Au fiasco, l'athlète jamaïcain prenant feu par les cheveux.
Horrible.
Aucun souvenir.
Les dreadlocks en feu. Alors,
feu d'artifice.
Bon, feu d'artifice.
Ouais, feu d'artifice. Ouais, ouais. Très mauvaise réponse de nos deux tontons. Il a tourné au barbecue géant.
À savoir.
Eh oui, les traditionnelles colombes de la paix sont allées se nicher dans la vasque et se sont embrasées lors de l'allumage de la flamme.
Oh, quelle horreur.
Eh ben oui, je suis
quelle
désolé.
Merveille.
Et elles ont été gobées par des gens du public.
C'est pas très connu, hein, j'ai jamais entendu parler de ça.
Bien fait de venir, je te
bah
le disais.
Oui, oui, c'est sûr.
Entre la bière et les colombes.
Ah oui.
Que fit Cassius Clay de sa médaille d'or décrochée chez les moins de 80 kilos en 60 à Rome?
Il l'offrit à un clochard.
Il la fit fondre pour en faire des alliances.
Il la jeta dans une rivière.
Il la jeta dans une rivière.
Ah ouais, là, en plus vous avez l'air de connaître l'anecdote.
Il touche sa canette en sport, Franck, effectivement.
Ah oui,
après qu'un restaurant réservé aux Blancs ait refusé
exactement
de servir,
c'est ça.
Il a voulu accomplir un geste fort pour montrer que la cause du peuple noir, ça existait. Et il a bazardé sa médaille dans une rivière. Pourquoi en 76 à Montréal, la gymnaste roumaine Nadia Comăneci fit-elle bugger les ordinateurs?
Parce qu'elle a eu un 10.
Parce qu'elle renversa sa bouteille d'eau sur les ordinateurs.
Parce qu'en recevant sa médaille d'or, elle se prit les pieds dans le fil d'alimentation.
Parce qu'elle obtint la note maximale.
Oui, elle a obtenu un 10. Ouais. À la poutre, je crois.
Ouais.
Et les ordinateurs de l'époque étaient un peu rustiques. Un peu comme celui de Ganesh. Et il n'était pas conçu pour afficher des notes à deux chiffres.
Ouais,
et comme elle a eu 10, et ben voilà. Ouais. Pour quelle raison le célèbre athlète éthiopien Mirut Yifter, médaille d'or du 10 000 mètres à Munich en 72, fit 3 mois de prison?
Pour des résultats décevants, Haïlé Selassie jugea ses performances médiocres.
Pour usurpation d'identité, il n'était pas éthiopien, mais ghanéen.
Ou pour insulte au drapeau allemand, il avait craché dessus.
Je crois que c'est la 2, moi. C'est le problème d'identité.
Résultat de
saison, mais je suis pas sûr. Mais...
Victoire de Philippe.
Très bien.
De retour en Éthiopie, le pauvre Mirut fut envoyé en prison, accusé d'avoir failli à sa mission.
C'est
et pourtant,
horrible,
il avait eu une médaille d'or.
Bah oui,
mais
c'est
ça ne suffisait pas.
Oh là là.
Bah oui, parce qu'ils avaient l'habitude des médailles d'or avec un bébé Bikila et tout ça. Voilà.
Et voilà. Et la dernière, attention. Apparue en 72 à Munich encore, la première mascotte de l'histoire des JO représentait
un berger allemand,
un dog allemand
ou un teckel allemand?
On va dire un teckel. Parce que...
Un teckel.
Je ne sais pas si le teckel allemand existe. Donc je peux les deux.
Un indice, on le surnommait Vladi le teckel. Cette mascotte était disponible dans toutes les couleurs, sauf en noir et rouge. Et c'est vrai, couleur utilisée par le régime précédent, le régime nazi. C'était donc la dernière. Je me tourne vers la Rose Anissa.
Eh bien, grâce à ce quiz Jeux Olympiques, c'est Philippe Delerme qui reprend la tête sur cette manche.
Quel allemand !
Grâce au quel allemand. Des tontons flingueurs, Carl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur. C'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1 à partir de 16h.
Les publicités radiophoniques sont comme une Madeleine de Proust ou un Carbone 14 qui renvoie à chaque fois à toute une époque. Ce sont aussi, on peut le dire, des plaisirs minuscules, cher Ad Delerme.
C'est sûr.
Nous allons donc en réentendre et pour les moins vieux d'entre vous, en découvrir certaines. À vous non pas de deviner la marque, ce serait trop aisé, mais l'année et d'en déduire coup qui était président de la République.
La cuvée.
Cette année-là, c'est super coton. Premier extrait.
Bien le bonjour, monsieur l'évitant. Vous avez des meubles, vous avez des meubles. Bien le bonjour, monsieur l'évitant. Vous avez des meubles qui durent longtemps.
Oui.
Bien le bonjour, monsieur l'évitant.
Moi, je dirais De Gaulle.
De Gaulle.
C'est trop vieux en termes de sang pour que ce soit Pompidou. Ouais, non, De Gaulle.
Vincent Auriol, bah oui, président de 47 à 54, deuxième extrait.
Monsieur le VIP rêve. Rêve de pêche au lancer. Déjà, il lance sa cuillère. Le fil se déroule, les truites mordent. Alors, il saute au volant de sa voiture vers la plus proche station mobile.
Votre ensemble de pêche au lancer est là, monsieur le VIP. Tout est si facile chez Mobile. 32 francs au lieu de 45. Prix réservé au VIP.
Ouais, ça sent le Pompidou, ça.
Ouais, ça sent les années 60. Je dirais bien Pompidou. Peut-être De Gaulle aussi, parce que si c'est avant
1976, Pompidou nous avait quitté.
C'est Giscard. Ouais.
C'est donc Giscard. Et là encore, mes chers amis, de points. Plus ancien.
Alors les rois mérovingiens, je me rappelle plus. Clovis.
Bon alors. Une idée.
Il me semble que je l'ai entendu quand j'allais voir des matchs de foot au Parc des Princes. Donc,
quand
dans les années.
Petit.
Quand j'étais ado, j'aurais dit.
Ado, non.
Ça ressemble au fromage des vignottes.
Le fromage des vignottes. T'es né en quoi, Philippe ?
50.
Ah oui, alors tout petit.
Tout petit.
Donc, le président, c'était.
René Coty.
Bon, t'as extirpé, mais on te suit.
Président du Conseil, attention. C'est pas président de la République, c'est président du Conseil, je précise.
Next.
Tout le monde adopte Bourville.
Mais Bourville n'était pas président.
Il avait piqué ce chasseur et son vélo.
Il était déjà un peu connu.
Président à ce moment-là.
De Gaulle. Là, je dis De Gaulle.
De Gaulle, oui.
Ouais, bonne réponse, De Gaulle, évidemment. Suivant.
Comment j'ai trouvé, monsieur ? Mais c'est très simple. Voyez-vous, chaque fois que vous reveniez du terrain vague, je prélevais des échantillons de boue sur les pneus et la carrosserie de votre voiture. Oui, je sais, on ne peut pas laver tous les jours sa voiture, sauf avec la carte lavage mobile qui vous aurait permis de la laver à volonté pendant 2 mois pour 29 francs seulement.
Ah bah là,
il faut déjà que
Colombo soit passé en France depuis un moment, dirais Chirac.
C'est Mitterrand, deuxième septennat, moi je dirais.
Ah oui, peut-être bien.
Mitterrand
je vais tenter Chirac au cas où.
Mais non, pas Chirac. Mitterrand, 86. Quand tu rêvais de faire de la publicité, Franck. Attention, on l'écoute.
Bordeaux rosé.
Il est léger, frais, gourmand.
Bordeaux rosé, Bordeaux, mais rosé. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Alors, ça m'a fait tellement mal aux dents. Je me souviens. Mal aux dents. Hein. C'est François Hollande.
Bonne réponse, François Hollande.
Bravo.
J'allais dire comme vous.
Mais il n'a pas répondu.
Non, mais j'allais dire comme vous.
Et maintenant, la dernière.
Rago toutou, le rago de mon toutou. J'en suis fou.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Il s'agit de rago toutou.
Rago toutou ?
Le ragoût de mon toutou.
Ça, c'est
ah bon ouais. Ça n'est pas un vrai produit.
D'accord.
C'est une fausse pub de Carl Zéro.
Je le reconnais.
Sors de ce corps.
C'est effectivement un pastiche, mais de quelle époque date-t-il et qui était président ?
Genre Gottener, le
Gottener, pastiche. Ouais, donc, c'est entre Giscard et Mitterrand. Ouais.
Et de cette réponse va dépendre peut-être le vainqueur.
Peut-être.
C'est le but en or.
Ouais, presque.
Je vous demande d'accélérer un peu.
Moi, ce soit un piège, et peut-être un truc récent, mais qui a un look rétro. Parce qu'on n'a pas dit Nicolas Sarkozy qui n'a jamais été représenté
dans
ce quiz.
C'est vrai.
Non, parce que je vais vous le dire comme je le pense. Le ragoût toutou, c'est ce que je donne à mon toutou.
On l'a, la pub de Sarko.
Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques, qui pourrait être financée par une taxe sur les recettes publicitaires accrues des chaînes privées et par une taxe infinitésimale sur le chiffre d'affaires de nouveaux moyens de communication comme l'accès à l'Internet ou la téléphonie mobile.
Et ça, c'est le jour, Franck, où tu as perdu la plupart de tes budgets. Plus de pub sur le service public, ça a été un peu dur.
Les sévices publics.
On revient à ragoût toutou.
Ragoût toutou, le ragoût de mon toutou.
Allez, on va dire Giscard.
Giscard.
Oh, Mitterrand, ouais.
C'est Franck qui gagne, ouais, c'est Giscard. Bravo. Ragout toutou. C'était dans le coup de parapluie avec Pierre Richard.
Ah, c'est ça. Ah, ouais.
Dans ce film.
Mais oui, mais oui. Mais
si
oui.
Drôle. Et là, on va enfin savoir.
Quel suspense dans, cette émission aujourd'hui. Je peux vous dire que sur cette manche, c'est Franck Tapiro qui gagne face à Philippe Delerme. Mais quand on fait le total des six manches...
Vous arrivez à faire le total.
Bien sûr, j'arrive à compter. Eh bien, c'est Philippe Delerme qui emporte bravo tout le match aujourd'hui et qui gagne face à Franck Tapiro.
Et malheureusement... Malheureusement, le prix qu'il devait avoir lui est retiré. Il ira dans la zone industrielle de Chantepie.
Avec un bonbon, la pie qui chante, qui n'est pas sans appeler, bien entendu, une marque très connue.
Ah, la pie qui chante, bah oui. Une de mes pubs favorites que je pourrais te chanter, mais hors antenne.
Et pour célébrer la victoire de Philippe Delerme, vous pouvez plonger dans son dernier livre « Et vous avez eu beau temps, la perfidie ordinaire des petites phrases ». C'est paru aux éditions du Seuil, c'est sorti l'année dernière. Et puis Franck Tapiro, je vous rappelle qu'il est président de la société Hémisphère Droit, cabinet conseil en créativité. Il est Chief Emotion Officer de la start-up Data Calav et cofondateur de la fondation I Love You. Ah oui. I Love You, c'est très important. C'est une fondation qui finance des projets et des chantiers partout en France pour la construction, la réhabilitation et la rénovation des personnes mal logées.
Merci d'avoir dit ça. Je rajouterai juste quelque chose que j'ai lancé il y a quelques années et que je relance maintenant. C'est un médicament qui s'appelle Antisémitox, qui est le premier médicament contre l'antisémitisme. C'est un bonbon qui agit immédiatement dès les premiers symptômes d'antisémitisme et qui adoucit la parole. Nous le relançons, c'est pas une blague, vous pouvez le voir sur internet, il se trouve alors sous le manteau encore une fois, mais il sera distribué très vite parce que je pense qu'on va faire une nouvelle formule plus puissante en ce moment avec le lancement d'un suppositoire.
Tous les week-ends de 16h à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Carl revient demain, dimanche, à 16h.